Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis avec Mathilde Perrichon au prieuré de Bray. Je rencontre Mathilde parce qu'elle est en reconversion professionnelle, mais elle va nous expliquer tout ça. Raconte-nous ce que tu faisais avant de t'installer ici.
Alors, avant de m'installer comme agricultrice au prieuré de Bray, j'étais responsable communication d'un groupe de presse professionnel, la France Agricole. Donc j'étais déjà dans le monde agricole, on va dire, qui m'a toujours passionnée. En réalité, je ne suis pas passée à la production parce que j'étais à la France Agricole. Je suis allée travailler à la France Agricole et dans le monde agricole parce que j'ai fait d'autres entreprises agricoles avant. Parce que depuis que j'étais ado, je me passionnais pour les questions de politique alimentaire et d'alimentation. Et j'ai pas du tout fait d'études agricoles, j'ai fait des études de lettres et de philo et de langue. Mais ce qui me plaisait, c'était vraiment la dimension politique de l'agriculture. Parce que pour moi, produire et la manière avec laquelle on choisit de produire, ça conditionne beaucoup de choses dans la société. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'ai approché de mes 40 ans, je me suis dit, bon là, ça change pas assez vite à mon goût. Et c'est pas en restant dans les bureaux et en essayant d'influencer un petit peu à ma micro-échelle que je vais réussir à avoir un effet levier, même si aujourd'hui encore mon effet levier il est minime. Mais je pense que j'ai beaucoup plus d'influence et sur mon entourage et sur les gens qui observent ce que je fais et qui s'en inspirent que quand j'étais dans les bureaux.
Bah donc du coup, tu vas nous raconter ce que tu fais.
Alors, qu'est-ce que je fais ? Là, je plante et je désherbe aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais en général ? Alors, je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales. On parle aussi de paysanne herboriste, c'est-à-dire que mon métier, c'est produire des plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique et je les vends. Donc, il y a plusieurs formes sous lesquelles on peut vendre des plantes aromatiques et médicinales. Moi, je les vends sous forme de plantes sèches, mais on pourrait aussi les vendre sous forme de plantes fraîches, par exemple les aromates comme le persil, la coriandre, le basilic, ça se vend aussi en frais, comme le font par exemple certains maraîchers. Et puis on peut aussi transformer ces plantes de plein d'autres façons. Ça peut être par exemple des huiles essentielles, ça peut être de la gémothérapie, enfin ça peut être plein de manières différentes. Je suis installée que depuis le printemps 2020, donc ça fait peu de temps finalement que je suis en production, même si j'avais commencé à produire un petit peu avant, parce qu'il y a beaucoup de vivaces dans les plantes aromatiques et médicinales, et qui dit vivace dit un niveau de développement, un cycle végétal un peu plus long. Donc il y a beaucoup de plantes que j'ai récoltées en 2020 que j'avais déjà installées en 2019, avant de m'installer officiellement. Il y a des clients particuliers qui viennent au prieuré acheter mes plantes. Il y a des gens que je rencontre sur des marchés, avec une amie qui s'appelle Juliette, qui est en maraîchage sol vivant, en agriculture biologique. On a un petit marché hebdomadaire, donc on les vend là.
Où ça ?
À Villers-Saint-Frambourg, à côté de Senlis. Et après, je vends aussi dans une épicerie fine dans le sud de l'Oise, et puis dans un magasin spécialisé qui a plutôt des produits bio.
Ok, et donc tu fais sécher toi-même tes plantes ?
Oui. En fait, je sèche dans mon séchoir qui se situe au prieuré de Bray.
T'es devenue un peu actrice, en fait, de ta philosophie, quoi, globalement, c'est ça ?
Oui, en fait, disons que quand j'étais en bureau, je faisais quand même du terrain. J'allais voir souvent des agriculteurs. Je suis allée beaucoup voir des éleveurs laitiers. J'aimais bien, d'ailleurs, aller dans les élevages. Je suis allée voir des éleveurs de vaches allaitantes, des céréaliers, des vignerons. Enfin, j'ai été voir plein de gens un peu partout en France qui étaient dans le milieu agricole. Et en fait, je trouvais toujours que j'avais jamais assez de terrain, quoi. J'étais jamais assez aux prises directes avec le végétal ou même l'animal. Du coup, je trouvais que mon boulot, il avait pas vraiment de sens. Enfin, il avait pas le sens que moi j'avais envie de donner à ma vie. Donc, j'étais trop écartelée entre ce que j'essayais de faire dans mon travail, ce que je faisais à côté dans le monde associatif. Parce que bah, parallèlement, au fur et à mesure que c'était de plus en plus puissant en moi, cette envie, bah, je me suis impliquée beaucoup plus dans des associations. Une association qui s'appelle La Clairière des Sources, puis une association qui s'appelle Quoi en Transition, qu'on a créée avec des amis, qui fait partie du réseau des villes en transition. Et en fait, c'était pas encore assez, il fallait aller encore un peu plus loin. Et du coup, bah, c'est comme ça que je suis un peu passée à l'acte.
Et t'as le terrain nécessaire, j'ai l'impression, ici, au prieuré de Bray.
Alors là,
suffisamment de surface.
Oui, déjà c'est beau, ce qui est quand même non négligeable. C'est beau, et puis il y a le côté aussi prieuré. C'est-à-dire que je pense que le prieuré, il n'a pas été installé là par hasard. Enfin, je pense qu'à l'époque médiévale, au XIIIe siècle, les chanoines, ils n'ont pas choisi d'implanter une église, une chapelle à un endroit de manière complètement anodine. Et donc, il y a quand même des choses qu'on ressent quand on est ici. Il y a des ondes, il y a des vibrations qui sont positives. En tout cas, que moi, j'ai senti quand je suis arrivée ici, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Et puis, il y a les gens qui habitent ici aussi. Les propriétaires, Jérémy Varin qui travaille ici.
Le jardinier en chef
qui s'occupe de tout le potager en permaculture qu'il a créé, qui fait tout l'entretien des arbres fruitiers, l'entretien des espaces verts, tout ce qui est plantes ornementales. Et les propriétaires sont assez passionnés aussi de tout ce qui est question écologique, le climat, le paysage, la transition. Et du coup, je me sentais bien, enfin je me sentais en phase avec leurs idées. Et puis en fait, ils m'ont accueilli aussi parce que j'apportais quelque chose en plus par rapport à ce qui existait déjà.
Et est-ce que tu t'es formée en fait, ou tu te formes en rencontrant des gens, en allant sur...
Oui, alors je me suis formée. Alors déjà, dans le cadre de ma reconversion professionnelle, j'ai fait une formation qu'on appelle un BPREA. En fait, c'est le niveau bac, on va dire, qui donne ce qu'on appelle la capacité agricole. Mmh. C'est-à-dire que ce BPREA, donc c'est un brevet professionnel responsable d'entreprise agricole. Et ce BPREA en maraîchage biologique m'a permis déjà d'acquérir des connaissances que je n'avais pas sur les techniques de maraîchage, les SMI, les familles botaniques, qu'est-ce que c'est qu'un assolement, comment on gère une rotation, enfin comment on met les plantes chaque année pour pas qu'elles aient trop de maladies et de ravageurs. Voilà, donc tout ce qui est biologie et puis évidemment aussi un peu de comptabilité, les compétences qu'on doit acquérir si on a envie de s'installer comme agriculteur. Ça m'a pris une petite année. Avant, je m'étais formée à la permaculture. Donc ça, c'était plus quand j'étais toujours dans mon travail précédent, où j'allais à droite, à gauche, en France, un peu faire du woofing. Pas que d'ailleurs dans les plantes aromatiques et médicinales, mais j'en ai fait quand même plusieurs partout en France. Et puis après, je me suis formée à l'herboristerie aussi. Là, j'étais à l'école des plantes de Paris, où je suis toujours d'ailleurs. En fait, la transmission dans cette école, c'est vraiment... le contenu du diplôme d'herboriste qui a été supprimé en 1941 par le gouvernement de Vichy, donc qui n'a plus le droit de s'exercer en France, mais qui existe encore sous le nom de herbaliste dans le monde anglo-saxon, en Belgique, en Allemagne. C'est souvent Heilpraktiker, c'est un peu plus global en Allemagne. Il y a aussi un croisement entre cette formation et celle de naturopathe. On pourrait associer ça à naturopathe, Heilpraktiker, et en Suisse aussi.
Plus développé dans d'autres pays qu'en France, quoi, globalement.
Oui, parce que...
Reconnu en tout cas.
Oui, le diplôme est reconnu ailleurs en Europe ou en Suisse. Et surtout, je pense qu'en dans d'autres pays, il y a moins ce cloisonnement entre la médecine, on va dire, conventionnelle, que pratiquent les médecins. Alors, bon, il y a des médecins qui sont très sensibilisés à d'autres formes de
plantes,
médecine,
ou de
traitement. Voilà, il y a des médecins et des pharmaciens qui s'intéressent à la phytothérapie, évidemment, donc aux soins par les plantes. Mais ce n'est pas forcément très répandu en France pour le moment, alors que dans d'autres pays, effectivement, il y a plus de symbiose, je dirais, il y a plus de passerelles entre les deux mondes, on va dire. Enfin, qui d'ailleurs en sont qu'un, puisque souvent les médicaments, il ne faut pas oublier qu'à l'origine, c'était à base de plantes.
Ouais.
Pas que, mais beaucoup à base de plantes. En tout cas, des molécules qui sont créées par les plantes.
Donc ici, là, tu loues ton terrain, en fait, c'est ça, pour ton activité. Et est-ce que tu arrives à vivre de ce métier? Enfin, tu viens de te lancer, donc du coup, c'est peut-être un petit peu compliqué aujourd'hui encore.
Oui, c'est un peu tôt. Pour l'instant, j'en vis pas. Pour l'instant, je suis beaucoup, depuis un peu plus d'un an, dans de l'investissement. Donc, investissement dans des plantes. Donc, c'est investissement financier et investissement en temps. Et il faut savoir que c'est rare que le métier d'agriculteur, que ce soit agriculteur en général, mais plus spécifiquement maraîcher ou paysan herboriste, c'est pas un métier où en général on va tirer les fruits de son travail tout de suite, quoi.
Non, donc, ça met quelques années, je pense.
Oui, voilà. Mmh. Donc c'est plutôt, je dirais peut-être dans 2022, 2023, enfin il va falloir quand même peut-être un an, voire 2 ans avant que je commence à dégager un revenu. Et il faut aussi que je limite mes charges, ce qui n'a pas été le cas au démarrage, puisque forcément j'ai investi pour pouvoir mettre en place l'entreprise. Voilà, toutes les plantes, il y en a une partie évidemment que j'ai produite moi-même par des SMI, puis il y a une partie que j'ai achetée aussi. Pareil pour les arbustes.
Donc le cycle végétal, il peut être long si c'est des arbustes, donc c'est pas en un an qu'on arrive à avoir le fruit de son travail.
Est-ce qu'il y a un endroit sur le net ou ailleurs, parce que bon, évidemment, on peut éventuellement venir te voir, mais tu as beaucoup de travail, donc c'est pas forcément une bonne idée. Mais sinon, pour expliquer un petit peu la manière dont tu travailles, qu'est-ce que tu proposes comme plante?
Ouais, j'ai pas de site marchand pour le moment parce que j'ai pas assez de quantité de plantes pour avoir un site marchand. Pour l'instant, j'ai une page web, Les Plantes de Mathilde, mais qui est pas marchande. Et j'ai une chaîne YouTube où j'explique un petit peu ce que je fais justement parce qu'on me pose plein de questions sur pourquoi on met telle plante à tel endroit, quelles sont ces plantes, quels sont leurs usages. Et là, du coup, récemment, on a fait une vidéo avec un ami qui s'appelle Sacha Guégan qui a écrit un livre sur le design en permaculture. Justement, on fait une balade au prieuré et on voit un petit peu qu'est-ce qu'il y a à découvrir en fait sur ces plantes.
Et comment tout est organisé aussi. Hein.
Voilà. Et puis, pourquoi c'est planté de telle ou telle manière?
Comment ça se répond, en fait?
Oui,
c'est ça.
Exactement. En fait, par exemple, ici, bon, là, on est en audio, donc ça ne se perçoit pas. On entend juste les oiseaux et les abeilles. Et... ici, en fait, c'est un coteau calcaire qui est exposé plein sud. Il y a eu un travail de mon collègue Jérémy Varin, dont on a parlé tout à l'heure, qui est jardinier au prieuré de Bray, et qui avait justement planté ses fruitiers, ses pommiers, ses poiriers, en arc de cercle pour épouser le coteau. Et c'était hyper pertinent d'avoir fait ça. Et du coup, moi, je suis venue rajouter des planches de culture de plantes aromatiques et médicinales en épousant cette forme qu'il avait déjà un peu mis en place avec ses fruitiers. Et du coup, on a un mélange, une complémentarité de différentes plantes, déjà de différentes strates aussi, parce que les plantes aromatiques, elles sont certaines arbustives, mais c'est assez bas. Les fruitiers, ils sont plus hauts, ils vont faire un peu d'ombrage. Enfin, en fait, on essaie vraiment d'avoir cette dynamique de différents niveaux de plantes, de différentes familles de plantes, pas les mêmes molécules. Donc au niveau olfactif, ça rend pas la même chose. Et par exemple, mes plantes, elles permettent aux fruitiers de Jérémy d'être plus sains parce qu'en fait, elles vont créer une perturbation olfactive sur des insectes qui pourraient être des ravageurs des fruitiers. D'ailleurs, il y a des études là-dessus, hein, sur le verger en cercle, les plantations en cercle, et puis comment on essaie de mixer les différentes plantes, les différentes familles de plantes pour créer un microclimat. Et on peut trouver ça sur le site du ministère de l'Agriculture, de mémoire. C'est des études INRA AgroParisTech, donc une école d'ingénieurs agro. Et c'est vraiment intéressant de voir comment les plantes se combinent, en fait. Y a des compétitions, il y a des concurrences entre plantes, mais il y a aussi des complémentarités. Et du coup, nous, en tant qu'humains, c'est intéressant d'apprendre ça et de jouer sur les bénéfices qu'on peut tirer de ça. C'est assez permaculturel comme vision, mais pas que. Ça peut aussi être une vision de se dire « j'ai envie de faire quelque chose de productif et d'esthétique » et de le faire avec la nature en essayant d'optimiser au plus ce que je peux voir qui marche dans la nature.
Bon, à t'entendre, tu m'as l'air d'être heureuse de cette reconversion professionnelle. Enfin, j'ai l'impression que tu t'épanouis pas mal quand même dans ce que tu fais, non?
Oui, c'est-à-dire que...
En tout cas, ça te passionne.
Oui, voilà, ça me passionne. C'est sûr que si on prend que le point de vue financier, ça peut pas être satisfaisant. En revanche, quand j'ai fait cette reconversion, je savais très bien que je ne le faisais pas pour l'argent. Donc, je dirais aux personnes qui ont envie de faire une reconversion professionnelle, quelle qu'elle soit, hein, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on obtient en qualité de vie et puis et surtout en cohérence avec soi-même, en essayant d'écouter ce qu'on a vraiment envie de faire. Et du coup, ça dépasse largement le besoin financier. Alors, le besoin financier, évidemment, il est là. Il ne faut pas se mettre totalement en banqueroute et il faut quand même prévoir et anticiper. Donc, il faut avoir des économies, il faut savoir qu'il faudra un filet de sécurité, il faut peut-être à un moment s'appuyer sur son entourage ou avoir de l'argent mis de côté avant dans son travail précédent. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus attendre trop longtemps pour réaliser quelque chose qui est de l'ordre du rêve, quoi. Sinon,
parce qu'après, la vie passe et puis voilà. On a des regrets.
Disons que moi, je me dis souvent que si je meurs aujourd'hui, je sais que je suis alignée, je suis honnête.
Oui. Ça, c'est super important.
C'est pour ça que j'ai fait ça. En fait, j'avais pas envie de passer à côté de moi-même, en fait, juste.
Ça s'entend tout à fait, je crois. Merci beaucoup, Mathilde. J'étais avec Mathilde Perrichon, paysanne herboriste, spécialisée dans les plantes aromatiques et médicinales, au prieuré de Bray. Elle nous a raconté sa reconversion professionnelle qui me semble tout à fait réussie. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.